Merci d'écouter France Inter. Voici le journal de Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Eric et bonjour à tous. À la une de l'actualité, la tension extrême en Espagne. Madrid semble bien décidé à tout mettre en œuvre pour reprendre le contrôle de la Catalogne et l'empêcher de faire sécession. Dans l'actualité de ce dimanche également, la fin cette nuit à l'Assemblée nationale de l'examen de la partie recette du projet de loi finances 2018, examen au cours duquel les députés ont voté la fin de l'ISF et adopté la réforme de la taxe d'habitation. À suivre, plus de 40 maires de grandes villes réunis aujourd'hui et demain à Paris. But de cette rencontre, trouver des améliorations à la préservation de la planète. On savait que la musique adoucissait les mœurs, il semble désormais prouver qu'elle favorise aussi les apprentissages scolaires. Nous verrons cela à la fin de cette édition, juste avant le journal des sports, présenté par Laetitia Bernard, avec au programme le classique OM-PSG ce soir à Marseille.
France Inter. L'Espagne a donc pris des mesures draconiennes afin d'empêcher la Catalogne de faire sécession et de devenir indépendante.
Disposition préparant notamment la destitution du gouvernement de l'indépendantiste Carl Puigdemont, qui a de son côté dénoncé dans la soirée la pire attaque contre sa région depuis la dictature franco. Fin de citation. En déclenchant l'article 155 qui devrait être ratifié par le Sénat en fin de semaine, le gouvernement de Mariano Rajoy a en tout cas engagé une manœuvre sans précédent et d'une ampleur inattendue. Une prise de position qui a immédiatement été suivie d'une manifestation indépendantiste réunissant pas moins de 450 000 personnes hier après-midi dans les rues de Barcelone. Une mise sous tutelle donc de la Catalogne qui durcit encore un peu plus le bras de fer entre Madrid et Barcelone. Madrid, d'où nous appelle Mathieu Taillac.
Mariano Rajoy prévoit d'activer l'article 155 de la Constitution et de destituer tous les ministres du gouvernement régional catalan ainsi que leur président. Ce dernier, Carles Puigdemont, a décidé en réponse de demander au Parlement catalan de se réunir en séance plénière pour y déclarer l'indépendance une fois pour toutes. Non, pas officiellement en tout cas. Il s'agirait de débattre, je cite, de la liquidation de l'autonomie qu'aurait perpétré Rajoy. Une réponse presque raisonnable. Sauf que si Puigdemont avait dit vouloir déclarer l'indépendance au Parlement, il aurait donné des arguments à la Cour constitutionnelle pour interdire cette séance plénière. On ne peut donc pas exclure une déclaration d'indépendance la semaine prochaine au Parlement catalan. Ce serait alors un excellent motif pour Rajoy de persévérer dans son idée de suspendre l'autonomie de la Catalogne en rejetant la faute sur les dirigeants sécessionnistes. Madrid, Mathieu de Taillac, France Inter.
Toutes les mesures annoncées hier par le gouvernement espagnol devront donc recevoir l'accord du Sénat vendredi prochain. Le Sénat, rappelons-le, où Mariano Rajoy détient la majorité absolue. Bon, et puis ce n'est pas la même situation qu'en Catalogne, mais en Italie, cette fois-ci, la Lombardie et la Vénétie organisent un référendum aujourd'hui. Référendum qui n'a pas pour objectif, comme en Catalogne, d'obtenir l'indépendance, mais plus d'autonomie. Référendum qui a été lancé par la Ligue du Nord, le parti d'extrême droite. Une consultation qui n'est donc pas comparable à celle lancée par les Catalans, selon Giovanni Orsina, professeur en sciences politiques à l'université Louis de Rome, au micro de notre correspondante Mathilde Imberti.
Rien à voir. Ça, c'est une chose complètement légale. Ça, c'est inscrit dans la Constitution. Ce n'est pas pure la sécession. C'est seulement pour négocier plus d'autonomie. Et il n'y a pas, en nord de l'Italie, on parle italien, on ne parle pas un autre langage. Même si la Ligue du Nord a essayé de bâtir une identité de la Padanie, il n'y a pas d'identité de la Padanie, c'est une chose tout à fait différente de la Catalogne. Il y a l'idée dans la Constitution italienne qu'il y a la possibilité pour les régions de négocier avec les centres plus d'autonomie. Les régions de la Lombardie et du Veneto ont décidé d'avoir un référendum pour avoir plus de légitimité démocratique dans la négociation. Mais ça, c'est seulement la première étape d'un long processus de négociation qui est très compliqué dans les systèmes institutionnels italiens. Et c'est très difficile de dire si quelque chose va vraiment se passer après ce référendum.
Un mot de politique étrangère encore pour vous dire que c'est le parti ANO du milliardaire Andrew Babiš qui a remporté une large victoire aux législatives tchèques de vendredi et samedi, et ceci en dépit de fraudes aux fonds européens. Le parti ANO qui est un mouvement populiste qui a fait de la lutte contre l'immigration l'une de ses priorités.
En France, à l'Assemblée nationale, les députés ont achevé cette nuit l'examen de la partie recette du projet de loi de finances pour l'année 2018.
Un projet de budget au cours duquel, après la flat tax et la réforme de l'ISF, les députés ont donc voté la fin progressive de la taxe d'habitation, en tout cas pour 80% des Français en 2020. Une mesure qui a suscité la colère des bancs de la droite, à commencer par celle du président Les Républicains de la Commission des Finances à l'Assemblée, Éric Woerth.
Vous essayez de rhabiller, de réhabiliter cette idée que la TH serait le plus injuste des impôts du système fiscal français. Non, c'est pas la réalité. Certains orateurs l'ont dit, 40% des citoyens ne seront pas concernés par votre réforme. Il y a deux victimes, c'est la dette, parce qu'il faudra bien rembourser tout ça aux collectivités locales. Je crois crois pas que les économies suffiront. Donc c'est la dette. Vous allez continuer à endetter ou en tout cas utiliser plus de dettes que vous qu'on aurait pu le faire. Et puis deuxième victime, ce sont les communes qui perdent une partie encore supplémentaire de leur indépendance et qui y voient de moins en moins clair dans leur financement.
Réponse du ministre des Comptes publics Gérald Darmanin. D'autres moyens de financement plus justes seront trouvés pour les communes. Des financements plus justes ou plutôt des économies, il en est également question dans le domaine de la santé. Interrogée par nos confrères du JDD, la ministre de la Santé Agnès Buzyn évalue en effet à 30% le montant des dépenses de l'assurance maladie qui ne sont pas pertinentes et explique comment elle entend traquer les actes inutiles dans les hôpitaux. Objectif affiché pour 2018, réduire de 3 milliards d'euros le déficit global de la sécurité sociale.
Plus de 40 maires de grandes villes venus du monde entier vont se retrouver aujourd'hui et demain à Paris.
Organisé en effet par le réseau international C40, regroupant les villes engagées pour la planète, cette rencontre, 2 ans après l'accord climat signé à Paris, a pour but de susciter au niveau de ces édiles une réflexion sur la préservation de l'environnement. 2 jours de discussion pour tenter de faire avancer les choses, Rosalie Lafarge.
Du maire de Londres à celui de Los Angeles, en passant par ceux de Bogota, de Milan ou d'Auckland, tous se retrouvent autour d'Anne Hidalgo, la maire de Paris. Pendant 2 jours, ils vont partager leurs expériences en matière de lutte contre le réchauffement climatique, ce qu'ils ont mis en place dans leur ville au niveau énergie, mobilité, urbanisme, si ça fonctionne ou pas. Plusieurs entreprises qui travaillent sur la ville de demain sont elles aussi conviées. Tout ça pour retenir les meilleures initiatives, celles qui permettront d'atteindre les objectifs fixés par l'accord de Paris. Aujourd'hui, dans les grandes villes, on estime qu'un tiers des émissions de gaz à effet de serre vient des transports et que la circulation est la source de pollution de l'air la plus importante. Enjeu environnemental, évidemment, mais aussi de santé publique. C'est donc là-dessus que les maires vont plancher avant d'annoncer demain leurs engagements en la matière.
On savait que la musique adoucissait les mœurs. Il semble désormais prouver qu'elle favorise aussi les apprentissages scolaires. C'est en tout cas ce que révèle la Revue internationale d'éducation de Sèvres, une référence en matière de recherche. Pour le vérifier, Sonia Bourane a suivi l'association Un orchestre à l'école, implantée depuis 4 ans maintenant dans l'école élémentaire Henri Barbusse de Malakoff, en banlieue parisienne.
Ces enfants découvrent le violoncelle. Avec un professeur de musique, Youssouf et Maïlis, élèves de CE2, s'exercent.
Je voulais faire partie de l'orchestre à l'école parce que le violoncelle, c'est bien. J'ai trouvé que le bruit, il était super.
Des fois, c'est difficile et des fois, c'est pas difficile. Ça dépend des morceaux. Parce que des fois, on oublie un peu les notes. Donc voilà.
De nombreuses études ont montré que la pratique musicale avait un effet sur le cerveau, dans l'acquisition du langage, sur la mémoire notamment. Pour Isabelle Gentil, la directrice de l'école, la musique développe des compétences utiles pour les apprentissages scolaires.
Tout ce qui est rigueur, tout ce qui est concentration, ça peut être aussi de la motricité fine sur le travail du doigté. Des élèves qui ont du mal à rester assis sur une chaise en classe, qui vont se mettre au violoncelle, on va les voir évoluer petit à petit pour devenir des élèves qui sont assis, qui sont concentrés. Et du coup, en mathématiques, en français, ça apporte aussi à l'élève dans ce sens-là. Et puis, il y a aussi des enfants étiquetés, on va dire, qui vont dire « bon, ben, moi, je suis en échec, j'y arrive pas ». Et d'un seul coup, ils sont en réussite avec l'instrument et on arrive à les relancer sur l'apprentissage. Et ça, c'est une des choses les plus belles.
Les résultats scolaires s'améliorent et les enfants prennent beaucoup de plaisir.
Voilà, et sans fausse note, eh bien, je vous laisse en compagnie d'Éric Delvaux.
Et on a évité la flûte à bec, c'est déjà pas si mal. Merci beaucoup, c'était le journal de Serge Martin.